j'ai pris dans les deux musiques des airs également estimés chacun dans son genre, et les dépouillant les uns de leur port de voix et de leur cadence éternelle, les autres des notes sous-entendues que le compositeur ne se donne point la peine d'écrire et dont il se remet à l'intelligence du chanteur. Note 4. Je les ai solfiées exactement sur la note, sans aucun ornement, et sans rien fournir de moi-même au sens ni à la liaison de la phrase. Je ne vous dirai point quel a été dans mon esprit le résultat de cette comparaison, parce que j'ai le droit de vous proposer mes raisons, et non pas mon autorité. Je vous rends compte seulement des moyens que j'ai pris pour me déterminer, afin que si vous les trouvez bons, vous puissiez les employer à votre tour. Je dois vous avertir seulement que cette expérience demande bien plus de précautions qu'elle ne semble. La première et la plus difficile de toutes est d'être de bonne foi, et de se rendre également équitable dans le choix et dans le jugement. La seconde est que pour tenter cet examen, il faut nécessairement être également versé dans les deux styles. Autrement, celui qui serait le plus familier se présenterait à chaque instant à l'esprit, au préjudice de l'autre. Et cette deuxième condition n'est guère plus facile que la première, car de tous ceux qui connaissent bien l'une et l'autre musique, nul ne balance sur le choix. Et l'on a pu voir, par les plaisants barbouillages de ceux qui se sont mêlés d'attaquer l'italienne, quelle connaissance ils avaient d'elle et de l'art en général. Je dois ajouter qu'il est essentiel d'aller bien exactement en mesure. Mais je prévois que cet avertissement, qui serait superflu dans tout autre pays, sera fort inutile dans celui-ci. Et cette seule omission entraîne nécessairement l'incompétence du jugement. Avec toutes ces précautions, le caractère de chaque genre ne tarde pas à se déclarer. Et alors il est bien difficile de ne pas revêtir les phrases des idées qui leur conviennent, et de n'y pas ajouter, du moins par l'esprit, les tours et les ornements qu'on a la force de leur refuser par le chant. Il ne faut pas non plus s'en tenir à une seule épreuve, car un air peut plaire plus qu'un autre, sans que cela décide de la préférence du genre. Et ce n'est qu'après un grand nombre d'essais qu'on peut établir un jugement raisonnable. D'ailleurs, en sautant la connaissance des paroles, on saute celle de la partie la plus importante de la mélodie, qui est l'expression. Et tout ce qu'on peut décider par cette voix, c'est si la modulation est bonne et si le chant a du naturel et de la beauté. Tout cela nous montre combien il est difficile de prendre assez de précautions contre les préjugés, et combien le raisonnement nous est nécessaire pour nous mettre en état de juger sainement des choses de goût. Je fais une autre épreuve qui demande moins de précautions et qui vous paraîtra peut-être plus décisive. J'ai donné à chanter à des Italiens les plus beaux airs de Lully et à des musiciens français des airs de Léo et du Pergolèse. Et j'ai remarqué que, quoique ceux-ci fussent fort éloignés de saisir le vrai goût de ces morceaux, ils en sentaient pourtant la mélodie, et en tiraient à leur manière des phrases de musique chantante, agréables et bien cadencées. Mais les Italiens solfiant très exactement nos airs les plus pathétiques n'ont jamais pu y reconnaître ni phrases ni chants. Ce n'était pas pour eux de la musique qui eût du sens, mais seulement des suites de notes placées sans choix et comme au hasard. Ils les chantaient précisément comme vous liriez des mots arabes écrits en caractères français. Note 5. Troisième expérience. J'ai vu à Venise un Arménien, homme d'esprit, qui n'avait jamais entendu de musique, et devant lequel on exécuta dans un même concert un monologue français qui commence par ce vers. Temple sacré, séjour tranquille, et un air de Galuppi qui commence par celui-ci. Voi che languite senza speranza. L'un et l'autre furent chantés, médiocrement pour le français et mal pour l'italien, par un homme accoutumé seulement à la musique française, et alors très enthousiaste de celle de M. Rameau. Je remarquai dans l'arménien, durant tout le chant français, plus de surprise que de plaisir. Mais tout le monde observa dès les premières mesures de l'air italien que son visage et ses yeux s'adoucissaient. Il était enchanté. Il prêtait son âme aux impressions de la musique. Et quoiqu'il entendît peu la langue, les simples sons lui causaient un ravissement sensible. Dès ce moment, on ne peut plus lui faire écouter aucun air français. Mais sans chercher ailleurs des exemples, n'avons-nous pas même parmi nous plusieurs personnes qui, ne connaissant que notre opéra, croyaient de bonne foi n'avoir aucun goût pour le chant et n'ont été désabusées que par les intermèdes italiens? C'est précisément parce qu'ils n'aimaient que la véritable musique qu'ils croyaient ne pas aimer la musique. J'avoue que tant de faits m'ont rendu douteuse l'existence de notre mélodie et m'ont fait soupçonner qu'elle pourrait bien n'être qu'une sorte de plain chant modulé qui n'a rien d'agréable en lui-même, qui ne plaît qu'à l'aide de quelques ornements arbitraires, et seulement à ceux qui sont convenus de les trouver beaux. Aussi, à peine notre musique est-elle supportable à nos propres oreilles lorsqu'elle est exécutée par des voix médiocres qui manquent d'art pour la faire valoir. Il faut des Fels et des Géliottes pour chanter la musique française. Mais toute voix est bonne pour l'italienne, parce que les beautés du chant italien sont dans la musique même, au lieu que celles du chant français, s'il en a, ne sont que dans l'art du chanteur. Note 6. Trois choses me paraissent concourir à la perfection de la mélodie italienne. La première est la douceur de la langue, qui, rendant toutes les inflexions faciles, laisse au goût du musicien la liberté d'en faire un choix plus exquis, de varier davantage les combinaisons, et de donner à chaque acteur un tour de chant particulier, de même que chaque homme a son geste et son ton qui lui sont propres et qui le distinguent d'un autre homme. La deuxième est la hardiesse des modulations, qui, quoique moins servilement préparées que les nôtres, se rendent plus agréables en se rendant plus sensibles, et sans donner de la dureté au chant, ajoutent une vive énergie à l'expression. C'est par elle que le musicien, passant brusquement d'un ton ou d'un mode à un autre, et supprimant, quand il le faut, les transitions intermédiaires et scolastiques, fait exprimer les réticences, les interruptions, les discours entrecoupés qui sont le langage des passions impétueuses, que le bouillant métastase a employé si souvent, que les porpora, les galoupi, les cocchi, les perès, les taradeglias ont su rendre avec succès, et que nos poètes lyriques connaissent aussi peu que nos musiciens. Le troisième avantage, et celui qui prête à la mélodie son plus grand effet, est l'extrême précision de mesure qui s'y fait sentir dans les mouvements les plus lents ainsi que dans les plus gais. Précision qui rend le chant animé et intéressant, les accompagnements vifs et cadencés, qui multiplie réellement les chants en faisant d'une même combinaison de sons autant de différentes mélodies qu'il y a de manières de les scander, qui porte au cœur tous les sentiments et à l'esprit tous les tableaux, qui donnent aux musiciens le moyen de mettre en air tous les caractères de paroles imaginables, plusieurs dont nous n'avons pas même l'idée, note 7, et qui rend tous les mouvements propres à exprimer tous les caractères, note 8, ou un seul mouvement propre à contraster et changer de caractère au gré du compositeur. Voilà, ce me semble, les sources d'où le chant italien tire ses charmes et son énergie, à quoi l'on peut ajouter une nouvelle et très forte preuve de l'avantage de sa mélodie, en ce qu'elle n'exige pas autant que la nôtre de ses fréquents renversements d'harmonie, qui donnent à la basse continue le véritable chant d'en dessus. Ceux qui trouvent de si grandes beautés dans la mélodie française devraient bien nous dire à laquelle de ces choses elle en est redevable, ou nous montrer les avantages qu'elle a pour y suppléer. Quand on commence à connaître la mélodie italienne, on ne lui trouve d'abord que des grâces, et on ne la croit propre qu'à exprimer des sentiments agréables. Mais pour peu qu'on étudie son caractère pathétique et tragique, on est bientôt surpris de la force que lui prête l'art des compositeurs dans les grands morceaux de musique. C'est à l'aide de ces modulations savantes, de cette harmonie simple et pure, de ces accompagnements vifs et brillants, que ces chants divins déchirent ou ravissent l'âme, mettent le spectateur hors de lui-même et lui arrachent, dans ses transports, des cris dont jamais nos tranquilles opéras ne furent honorés. Comment le musicien vient-il à bout de produire ces grands effets ? Est-ce à force de contraster les mouvements, de multiplier les accords, les notes, les parties ? Est-ce à force d'entasser dessin sur dessin, instrument sur instrument ? Tout ce fracas, qui n'est qu'un mauvais supplément où le génie manque, étoufferait le chant loin de l'animer et détruirait l'intérêt en partageant l'attention. Quelque harmonie que puissent faire ensemble plusieurs parties toutes bien chantantes, l'effet de ces beaux chants s'évanouit aussitôt qu'ils se font entendre à la fois. Il ne reste que celui d'une suite d'accords qui, quoi qu'on puisse dire, est toujours froide quand la mélodie ne l'anime pas, de sorte que plus on entasse des chants mal à propos, et moins la musique est agréable et chantante, parce qu'il est impossible à l'oreille de se prêter au même instant à plusieurs mélodies, et que l'une effaçant l'impression de l'autre, il ne résulte du tout que de la confusion et du bruit. Pour qu'une musique devienne intéressante, pour qu'elle porte à l'âme les sentiments qu'on y veut exciter, il faut que toutes les parties concourent à fortifier l'expression du sujet, que l'harmonie ne serve qu'à le rendre plus énergique, que l'accompagnement l'embellisse, sans le couvrir ni le défigurer, que la basse, par une marche uniforme et simple, guide en quelque sorte celui qui chante et celui qui écoute, sans que ni l'un ni l'autre s'en aperçoivent. Il faut, en un mot, que le tout ensemble ne porte à la fois qu'une mélodie à l'oreille et qu'une idée à l'esprit. Cette unité de mélodie me paraît une règle indispensable et non moins importante en musique que l'unité d'action dans une tragédie, car elle est fondée sur le même principe et dirigée vers le même objet. Aussi, tous les bons compositeurs italiens s'y conforment-ils, avec un soin qui dégénère quelquefois en affectation, et, pour peu qu'on y réfléchisse, on sent bientôt que c'est d'elle que leur musique tire son principal effet. C'est dans cette grande règle qu'il faut chercher la cause des fréquents accompagnements à l'unisson qu'on remarque dans la musique italienne, et qui, fortifiant l'idée du chant, en rendent en même temps les sons plus moelleux, plus doux et moins fatigants pour la voix. Ces unissons ne sont point praticables dans notre musique, si ce n'est sur quelques caractères d'air choisi et tourné exprès pour cela. Jamais un air pathétique français ne serait supportable accompagné de cette manière, parce que la musique vocale et l'instrumentale ayant parmi nous des caractères différents, on ne peut, sans pécher contre la mélodie et le goût, appliquer à l'une les mêmes tours qui conviennent à l'autre, sans compter que la mesure étant toujours vague et indéterminée, surtout dans les airs lents, les instruments et la voix ne pourraient jamais s'accorder et ne marcheraient point assez de concert pour produire ensemble un effet agréable. Une beauté qui résulte encore de ces unissons, c'est de donner une expression plus sensible à la mélodie, tantôt en renforçant tout d'un coup les instruments sur un passage, tantôt en les radoucissant, tantôt en leur donnant un trait de chant énergique et saillant que la voix n'aurait pu faire, et que l'auditeur, adroitement trompé, ne laisse pas de lui attribuer quand l'orchestre sait le faire sortir à propos. De là naît encore cette parfaite correspondance de la symphonie et du chant qui fait que tous les traits qu'on admire dans l'une ne sont que des développements de l'autre. De sorte que c'est toujours dans la partie vocale qu'il faut chercher la source de toutes les beautés de l'accompagnement. Cet accompagnement est si bien un avec le chant, et si exactement relatif aux paroles, qu'il semble souvent déterminer le jeu et dicter à l'acteur le geste qu'il doit faire. Note 9. Et tel qui n'aurait pu jouer le rôle sur les paroles seules, le jouera très juste sur la musique, parce qu'elle fait bien sa fonction d'interprète. Au reste, il s'en faut beaucoup que les accompagnements italiens soient toujours à l'unisson de la voix. Il y a deux cas assez fréquents où le musicien les en sépare. L'un, quand la voix roulant avec légèreté sur des cordes d'harmonie, fixe assez l'attention pour que l'accompagnement ne puisse la partager. Encore alors donne-t-on tant de simplicité à cet accompagnement que l'oreille affectée seulement d'accords agréables n'y sent aucun chant qui puisse la distraire. L'autre cas demande un peu plus de soin pour le faire entendre. Ce passage me paraît renfermer un précepte très utile, et voici comment je pense qu'on doit l'entendre. Si le chant est de nature à exiger quelques additions, ou, comme disaient nos anciens musiciens, quelques diminutions, note 10, qui ajoutent à l'expression ou à l'agrément, sans détruire en cela l'unité de mélodie, de sorte que l'oreille, qui blâmerait peut-être ces additions faites par la voix, les approuve dans l'accompagnement et s'en laisse doucement affecter, sans pour cela cesser d'être attentive au chant. Alors l'habile musicien, en les ménageant à propos et les employant avec goût, embellira son sujet et le rendra plus expressif sans le rendre moins un. Et quoique l'accompagnement n'y soit pas exactement semblable à la partie chantante, l'un et l'autre ne feront pourtant qu'un chant et qu'une mélodie. Que si le sens des paroles comporte une idée accessoire que le chant n'aura pas pu rendre, le musicien l'enchâssera dans des silences ou dans des tenues, de manière qu'il puisse la présenter à l'auditeur sans le détourner de celle du chant. L'avantage serait encore plus grand si cette idée accessoire pouvait être rendue par un accompagnement contraint et continu, qui fît plutôt un léger murmure qu'un véritable chant, comme serait le bruit d'une rivière ou le gazouillement des oiseaux. Car alors, le compositeur pourrait séparer tout à fait le chant de l'accompagnement, et destinant uniquement ce dernier à rendre l'idée accessoire, il disposera son chant de manière à donner des jours fréquents à l'orchestre, en observant avec soin que la symphonie soit toujours dominée par la partie chantante. Ce qui dépend encore plus de l'art du compositeur que de l'exécution des instruments. Mais ceci demande une expérience consommée pour éviter la duplicité de mélodie. Voilà tout ce que la règle de l'unité peut accorder au goût du musicien, pour parer le chant ou le rendre plus expressif, soit en embellissant le sujet principal, soit en y ajoutant un autre qui lui reste assujetti. Mais de faire chanter à part des violons d'un côté, de l'autre des flûtes, de l'autre des bassons, chacun sur un dessin particulier, et presque sans rapport entre eux, et d'appeler tout ce chaos de la musique, c'est insulter également l'oreille et le jugement des auditeurs. Une autre chose, qui n'est pas moins contraire que la multiplication des parties, à la règle que je viens d'établir, c'est l'abus, ou plutôt l'usage des fugues, imitations, doubles dessins et autres beautés arbitraires et de pure convention, qui n'ont presque de mérite que la difficulté vaincue, et qui toutes ont été inventées dans la naissance de l'art pour faire briller le savoir, en attendant qu'il fût question du génie. Je ne dis pas qu'il soit tout à fait impossible de conserver l'unité de mélodie dans une fugue, en conduisant habilement l'attention de l'auditeur d'une partie à l'autre, à mesure que le sujet y passe. Mais ce travail est si pénible que presque personne n'y réussit, et si ingrat qu'à peine le succès peut-il dédommager de la fatigue d'un tel ouvrage. Tout cela n'aboutissant qu'à faire du bruit, ainsi que la plupart de nos cœurs s'y admiraient, note 11, est également indigne d'occuper la plume d'un homme de génie et l'attention d'un homme de goût. À l'égard des contre-fugues, doubles fugues, fugues renversées, basses contraintes et autres sottises difficiles que l'oreille ne peut souffrir et que la raison ne peut justifier, ce sont évidemment des restes de barbarie et de mauvais goût, qui ne subsistent, comme les portails de nos églises gothiques, que pour la honte de ceux qui ont eu la patience de les faire. Il a été un temps où l'Italie était barbare, et même après la renaissance des autres arts que l'Europe lui doit tous, la musique plus tardive n'y a point pris aisément cette pureté de goût qu'on y voit briller aujourd'hui. Et l'on ne peut guère donner une plus mauvaise idée de ce qu'elle était alors qu'en remarquant qu'il n'y a eu pendant longtemps qu'une même musique en France et en Italie, note 12, et que les musiciens des deux contrées communiquaient familièrement entre eux, non pourtant sans qu'on pût remarquer déjà dans les nôtres le germe de cette jalousie qui est inséparable de l'infériorité. Lully même, alarmé de l'arrivée de Corelli, se hâta de le faire chasser de France, ce qui lui fut d'autant plus aisé que Corelli était plus grand homme et par conséquent moins courtisan. Dans ces temps où la musique naissait à peine, elle avait en Italie cette ridicule emphase de science harmonique, ces pédantesques prétentions de doctrine qu'elle a chèrement conservées parmi nous, et par lesquels on distingue aujourd'hui cette musique méthodique, compassée, mais sans génie, sans invention et sans goût, qu'on appelle à Paris musique écrite par excellence, et qui, tout au plus, n'est bonne en effet qu'à écrire et jamais à exécuter. Depuis même que les Italiens ont rendu l'harmonie plus pure, plus simple, et donné tout leur soin à la perfection de la mélodie, je ne nie pas qu'il ne soit encore demeuré parmi eux quelques légères traces des fugues et dessins gothiques, et quelquefois de doubles et triples mélodies. C'est de quoi je pourrais citer plusieurs exemples dans les intermèdes qui nous sont connus, et entre autres le mauvais quatuor qui est à la fin de « La femme orgueilleuse ». Mais outre que ces choses sortent du caractère établi, outre qu'on ne trouve jamais rien de semblable dans les tragédies, et qu'il n'est pas plus juste de juger l'opéra italien sur ses faces que de juger notre théâtre français sur l'impromptu de campagne ou le baron de la Crasse. Il faut aussi rendre justice à l'art avec lequel les compositeurs ont souvent évité, dans ces intermèdes, les pièges qui leur étaient tendus par les poètes, et ont fait tourner, au profit de la règle, des situations qui semblaient les forcer à l'enfreindre. De toutes les parties de la musique, la plus difficile à traiter sans sortir de l'unité de mélodie est le duo, et cet article mérite de nous arrêter un moment. L'auteur de la lettre sur Omphale a déjà remarqué que les duos sont hors de la nature, car rien n'est moins naturel que de voir deux personnes se parler à la fois durant un certain temps, soit pour dire la même chose, soit pour se contredire, sans jamais s'écouter ni se répondre. Et quand cette supposition pourrait s'admettre en certains cas, il est bien certain que ce ne serait jamais dans la tragédie, où cette indécence n'est convenable ni à la dignité des personnages qu'on y fait parler, ni à l'éducation qu'on leur suppose. Or, le meilleur moyen de sauver cette absurdité, c'est de traiter le plus qu'il est possible le duo en dialogue. Et ce premier soin regarde le poète. Ce qui regarde le musicien, c'est de trouver un chant convenable au sujet et distribué de telle sorte que chacun des interlocuteurs, parlant alternativement, toute la suite du dialogue ne forme qu'une mélodie qui, sans changer de sujet, ou du moins sans altérer le mouvement, passe dans son progrès d'une partie à l'autre, sans cesser d'être une, et sans enjamber. Quand on joint ensemble les deux parties, ce qui doit se faire rarement et durer peu, il faut trouver un chant susceptible d'une marche par tierce ou par sixte, dans lequel la seconde partie fasse son effet sans distraire l'oreille de la première. Il faut garder la dureté des dissonances, les sons perçants et renforcés, le fortissimo de l'orchestre pour des instants de désordre et de transport, où les acteurs, semblant s'oublier eux-mêmes, portent leur égarement dans l'âme de tout spectateur sensible et lui font éprouver le pouvoir de l'harmonie sobrement ménagée. Mais ces instants doivent être rares et amenés avec art. Il faut, par une musique douce et affectueuse, avoir déjà disposé l'oreille et le cœur à l'émotion, pour que l'un et l'autre se prêtent à ces ébranlements violents. Et il faut qu'ils passent avec la rapidité qui convient à notre faiblesse. Car, quand l'agitation est trop forte, elle ne saurait durer, et tout ce qui est au-delà de la nature ne touche plus. En disant ce que les duos doivent être, j'ai dit précisément ce qu'ils sont dans les opéras italiens. Si quelqu'un a pu entendre sur un théâtre d'Italie un duo tragique chanté par deux bons acteurs et accompagné par un véritable orchestre sans en être attendri, s'il a pu d'un œil sec assister aux adieux de Mandane et d'Arbace, je le tiens digne de pleurer à ceux de Libye et d'Epaphus. Mais, sans insister sur les duos tragiques, genre de musique dont on n'a pas même l'idée à Paris, je puis vous citer un duo comique qui est connu de tout le monde et je le citerai hardiment comme un modèle de chant, d'unité de mélodie, de dialogue et de goût auquel, selon moi, rien ne manquera, quand il sera bien exécuté, que des auditeurs qui sachent l'entendre. C'est celui du premier acte de la Serva Padrona, Lo conosco a che glocchietti, etc. J'avoue que peu de musiciens français sont en état d'en sentir les beautés, et je dirais volontiers du Pergolèse, comme Cicéron disait d'Homère, que c'est déjà avoir fait beaucoup de progrès dans l'art que de se plaire à sa lecture. J'espère, monsieur, que vous me pardonnerez la longueur de cet article en faveur de sa nouveauté et de l'importance de son objet. J'ai cru devoir m'étendre un peu sur une règle aussi essentielle que celle de l'unité de mélodie. Règle dont aucun théoricien, que je sache, n'a parlé jusqu'à ce jour. Que les compositeurs italiens ont seuls senti et pratiqué, sans se douter peut-être de son existence. Et de laquelle dépend de la douceur du chant, la force de l'expression, et presque tout le charme de la bonne musique. Avant que de quitter ce sujet, il me reste à vous montrer qu'il en résulte de nouveaux avantages pour l'harmonie même, aux dépens de laquelle je semblais accorder tout l'avantage à la mélodie, et que l'expression du chant donne lieu à celle des accords, en forçant le compositeur à les ménager.